Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous, un des derniers de l'année 2021 qui se termine un peu comme la précédente, avec de nouvelles inquiétudes, de nouvelles interrogations sur le front sanitaire, en espérant que la période dite des fêtes ne sera pas trop perturbée par cet énième rebond de l'épidémie de Covid-19. Pour cette fin d'année où brillent les lampions, j'ai voulu parler de ce qui fait briller la métropole toulousaine à l'international, des secteurs qui contribuent à faire de Toulouse une ville connue dans le monde entier. Deux viennent immédiatement à l'esprit, l'aéronautique et le spatial, joyaux de l'industrie et de l'économie toulousaine depuis des décennies et grands pourvoyeurs d'emplois dans la métropole et dans l'ensemble de la région. Airbus s'impose bien sûr comme le poids lourd du secteur et comme sa principale vitrine à l'international, mais bien d'autres sociétés installées elles aussi sur le territoire métropolitain possèdent une dimension des partenaires et une reconnaissance à l'échelon mondial. Elles ne sont sans doute pas assez connues des citoyens, en dehors de ceux qui travaillent pour ces activités. C'est pourquoi nous allons dédier ce numéro à l'aéronautique et au spatial, piliers du rayonnement international de la métropole toulousaine. Pour évoquer l'aéronautique et le spatial à Toulouse, leur rayonnement à l'international, j'ai invité Agnès Plagneux-Bertrand, adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'aéronautique, du spatial et des zones aéroportuaires. Bonjour madame et un grand merci d'avoir accepté mon invitation. J'en viens tout de suite à vos délégations à la métropole parce que je ne suis pas certain que nos auditeurs aient une idée très claire de l'action de Toulouse Métropole et du rôle de sa vice-présidente en charge de l'aéronautique, du spatial et des zones aéroportuaires. En quoi consistent-ils précisément ces rôles, cette action ?
Bonjour Eric, merci de m'avoir invité et merci de parler d'aéronautique et de spatial. Notre rôle au niveau de la métropole sur ces thématiques économiques que sont l'aéronautique et le spatial sont principalement autour de l'aménagement. Nous sommes, nous, responsables de l'organisation de la métropole, c'est-à-dire que nous devons mettre en place les conditions pour que les entreprises puissent s'implanter, se développer en harmonie avec le développement global de la métropole, c'est-à-dire prévoir les transports, les voiries qui permettront à ces entreprises de se développer ou de s'implanter. Ça, c'est notre principale activité. Au-delà de ça, bien évidemment, nous avons aussi d'autres activités qui les concernent. Notamment, nous finançons de la recherche. C'est-à-dire que dans le cadre de ce qu'on appelle le contrat de plan État-région, et j'allais dire et métropole, nous apportons un soutien à un certain nombre de laboratoires de recherche qui sont situés sur la métropole, justement en prévision du renforcement d'un certain nombre de technologies au bénéfice de ces secteurs, puisque ces secteurs, comme vous le savez, vivent actuellement un bouleversement, des bouleversements importants et qu'ils doivent se remettre en cause sur beaucoup de sujets technologiques. Donc, c'est important également de le signaler. Ensuite, nous avons une autre démarche qui consiste à abonder des fonds d'investissement, à participer à des fonds d'investissement, évidemment nous ne sommes pas du tout le seul contributeur, qui permettent là aussi le développement de petites entreprises ou de start-up, ce qu'on appelle les start-up, donc des entreprises qui démarrent de zéro à partir d'un projet technologique innovant. Donc nous avons contribué à la création de plusieurs fonds permettant le développement de ces entreprises. À grosse maille, voilà un petit peu les éléments sur lesquels nous travaillons.
Petit rappel et des précisions qui étaient nécessaires pour bien comprendre comment Toulouse Métropole agit avec et pour les acteurs de l'aéronautique et du spatial sur notre territoire. Je le rappelais en début d'émission, lorsqu'on pense à rayonnement international de Toulouse grâce à l'industrie aéronautique ou au spatial, on pense tout de suite à Airbus. Mais il y a d'autres entreprises du secteur installées dans la métropole toulousaine ou y ayant une grande partie de leurs installations qui ont aussi une forte dimension et une aura internationale. Et là, je parle de sociétés dont l'image, pour ceux qui œuvrent dans le secteur aéronautique à travers le monde, est immédiatement associée à Toulouse. Lesquelles peut-on citer en priorité ?
Alors, on va pouvoir citer la société ATR. Alors, ATR, c'est aussi une société d'Airbus, puisqu'elle est actionnaire pour la moitié, l'autre moitié étant Leonardo, un acteur italien. Alors, ATR, ce sont des avions que l'on repère assez facilement, puisqu'ils ont des turbopropulseurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des hélices. Donc, on a l'impression un peu de l'aviation d'avant. Alors qu'en réalité, d'abord, ATR adresse un marché d'avions un peu moins capacitifs, qui représente un besoin très important, notamment pour des pays ou des continents qui n'ont pas d'infrastructure permettant de se déplacer autrement que par avion. Donc ATR a connu, après avoir été pendant un certain temps un peu dans l'interrogation de poursuivre ou pas, ils ont reconnu un rebond absolument formidable avec des produits, enfin ils ont de plusieurs avions qui sont vraiment très très performants, et notamment grâce à ces turbopropulseurs, puisque les turbopropulseurs sont extrêmement économes. Donc quand on parle de l'avion vert, vraisemblablement ATR va jouer un rôle très important bien avant, vraisemblablement, que l'on connaisse des avancées sur les gros porteurs d'Airbus. On va connaître des avancées sur les avions ATR puisqu'ils sont plus petits et peut-être plus faciles à rendre économes grâce à un certain nombre de technologies qu'ils portent. Donc ATR, voilà, très important. Hein. Je pense qu'ils sont amenés à jouer un rôle majeur dans la suite de l'aéronautique. Donc il faut les regarder, il faut les soutenir autant que possible. Alors ensuite, je citerai la TECOR. Hein. La TECOR qui est une société qui fabrique donc pas que, mais en grande partie des aérostructures, qui s'est spécialisée dans les portes d'avions. Donc c'est une entreprise historique hein, qui est vraiment à l'origine de l'aéronautique à Toulouse, hein, et il ne faut pas l'ignorer. Donc voilà, c'est important de le savoir et également de les soutenir. Alors on a d'autres acteurs qui sont implanté à Toulouse, mais pas que, c'est Safran, hein, donc qui fabrique les moteurs, hein, donc une entreprise très importante, très compétente et qui va aussi jouer un rôle majeur dans l'avenir, dans la décarbonation de l'aéronautique. Et je voudrais citer aussi une autre entreprise qui s'appelle Satis, qui est moins connue, qui est une entreprise qui fait de la peinture d'avion, qui a connu une croissance assez phénoménale. C'est un secteur extrêmement technique, la peinture d'avion, puisqu'il faut que les avions soient beaux et soient protégés. Mais en même temps, il ne faut pas que leur mettre des tonnes de couches de peinture parce que c'est lourd. Donc c'est très, très technique et on a un des fleurons de cette activité dont le siège est à Toulouse. Voilà, donc c'est quelques... J'en oublie et je demande à tous ceux que j'ai oubliés, bien évidemment, de me pardonner.
Oui, alors on en oublie sans doute, hein, mais est-ce qu'on sait comment évolue le nombre d'entreprises de start-up liées à l'aéronautique ou au spatial d'ailleurs, situées dans la métropole toulousaine, mettons depuis une dizaine d'années? Est-ce que ça continue à croître?
Alors, ça croît plus que jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais commencer par l'aéronautique. Donc, l'enjeu de la décarbonation de l'aéronautique est un enjeu qui est multifactoriel, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas trouver une seule solution pour décarboner les avions. On ne va pas dire, tiens, on va changer pour un carburant pour un autre, même si on voit bien que changer les carburants classiques issus du pétrole par des carburants biosourcés, ce qu'on appelle les SAF, hein, les, en anglais Sustainable Aviation Fuel, va représenter une grande partie de la solution. Mais bien évidemment, ce ne sera pas la seule, parce que les avions qui voleront avec ces carburants pourront le faire visiblement sans problème, sans trop d'aménagement, donc ça c'est un vrai avantage. Mais le prix de ces carburants va être bien plus élevé, donc il va falloir chercher d'autres solutions complémentaires pour rendre les avions très très sobres. Donc on va travailler aussi sur des solutions pour amener de l'électricité à base de piles à combustible, à base d'hydrogène, hein. On ne va pas utiliser l'hydrogène que comme carburant direct, mais aussi pour pouvoir fabriquer de l'électricité. On va alléger un certain nombre de structures, toujours, puisque ça fait partie de la règle du jeu et de la feuille de route technologique très importante. On va aménager aussi des moyens de ce qu'on appelle l'air traffic management, c'est-à-dire comment on fait voler les avions, à quelle altitude, de quelle manière, pour les rendre aussi plus sobres. On va travailler également sur la partie, ce qu'on appelle e-taxiing, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les avions se déplacent à l'électricité plutôt que d'allumer ses moteurs. Donc on va éviter de prendre de l'énergie sur les moteurs. Donc tous ces champs technologiques qui s'ouvrent, alors qu'on avait des trajectoires technologiques jusque-là, que l'on pensait assez rectilignes, on voyait à peu près quel avion on allait fabriquer dans 50 ans. Là, tout d'un coup, enfin, c'est pas tout d'un coup d'ailleurs, mais enfin, on voit bien que cette progression est inéluctable. On voit des champs technologiques s'ouvrir comme jamais. Et en plus, il y a une autre chose particulière à l'aéronautique, c'est que l'aéronautique est un cas un peu particulier. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment adapter des solutions qu'on a identifiées ou qu'on a mis au point sur l'automobile, par exemple, dans l'aéronautique, puisque je vous donne par exemple l'exemple de la pile à combustible. Une pile à combustible, ça fonctionne avec de l'oxygène qui est pompé dans l'entourage. Le taux d'oxygène que l'on a sur la Terre n'est pas le même que celui qu'on a en l'air. Donc on ne peut pas vraiment, on est obligé d'adapter plein de projets. Donc ça ouvre des champs pour des startups comme jamais, mais comme jamais. Et alors, par rapport aussi à ce qui se faisait avant, les grandes entreprises, si vous voulez, ce qu'on appelle la barrière à l'entrée du marché dans l'aéronautique est considérable. Hein, vous voyez, construire un nouvel avion, c'est des milliards d'euros. Enfin,
les investissements sont énormes, ne serait-ce qu'en R&D déjà au départ.
Sont énormes. Donc, personne n'y croyait. On disait, non, mais les nouveaux entrants dans l'aéronautique, tout le monde rigolait, quoi. Alors que maintenant, on voit bien qu'il y a tellement de choses à regarder en parallèle que tout ce qui va être amené par les startups, ce sera ça de moins à faire, en quelque sorte. Donc, tout le monde est à l'affût de technologies innovantes qui vont venir des startups. Donc, comme ces choses-là ont changé, là, du tout au tout, du coup, les investisseurs se disent, ah, finalement, ce que l'on pensait complètement inaccessible, maintenant, va le devenir, puisqu'il va y avoir de la place pour des innovations, des projets qu'on n'avait pas imaginés avant. Donc, les investisseurs sont attirés par ces entreprises. Donc, tout ça va dans le même sens. C'est un cercle vertueux qui fait qu'il y a de la place pour les startups, et il y en a. Donc, ça, c'est pour l'aéronautique. Après, le spatial, le cheminement pour les nouvelles activités, il vient d'un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a vu arriver ces changements depuis plus longtemps. C'est le New Space, hein, que l'on pourra évoquer, qui a amené finalement des nouvelles façons d'aborder le spatial. D'abord, on peut faire des satellites plus petits, qui ont ce qu'on appelle des charges utiles, hein, des moyens de réaliser leur mission, qui sont aussi de plus en plus miniatures. On ne fait plus des satellites ou des charges utiles à l'unité, mais en série, donc ça baisse les coûts. On a aussi beaucoup d'utilisation du spatial, ce qu'on appelle des applications spatiales, c'est-à-dire que fait-on des images, des données qui sont transmises par les satellites pour en faire des produits à valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de choses autour de l'urbanisme, le GPS, enfin je veux dire, tout le monde utilise un GPS. Ça, c'est des choses que l'on a vu arriver depuis plus longtemps. Et juste, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais président d'Aerospace Valley, j'avais monté ce qu'on appelle un ESA-BIC. Donc ESA, c'est European Space Agency, donc c'est l'agence spatiale européenne. Et ils avaient lancé en fait un programme pour développer justement les startups qui utilisent des technologies du spatial pour promouvoir l'usage du startup. Et donc, ils labellisaient des incubateurs qui avaient décidé de se doter d'une spécialisation sur l'accompagnement des entreprises dans le spatial. Donc moi, j'ai monté avec mon équipe le premier ESA-BIC. Donc BIC, ça veut dire Business Incubation Center. Et on en a fêté à la rentrée, là, au mois de septembre, la 100e entreprise incubée dans les ABIC. Donc, vous voyez, il y a un moment, là, un peu de grâce, là, où on voit arriver des technologies, on voit des entreprises qui arrivent, et c'est en train de basculer vers quelque chose de très, très prometteur.
Un cercle vertueux, comme on dit. Toutes ces entreprises, bon, Airbus en tête, mais d'autres ont des clients, des partenaires, des fournisseurs aussi, qui viennent un peu de toute l'Europe, voire du monde entier. Et tout ça, ça draine beaucoup de gens à Toulouse qui viennent de loin. Est-ce qu'on sait ce que représente l'aéronautique et le spatial dans le tourisme d'affaires à Toulouse?
Alors, je pourrais vous dire ce que ça représentait avant le Covid. Avant le Covid, le tourisme, je dirais, professionnel, et dans ce tourisme professionnel, une grande part vient de l'aéronautique et du spatial, mais pas que, bien sûr, il n'y a pas que ça non plus, mais enfin, bon, ça représente quand même une très forte part, représente 70% des nuitées, etc., etc. Voilà. Bon, en ce moment, les déplacements professionnels ont beaucoup baissé, bien sûr que ça ne vous étonne pas. Non, actuellement, on est plutôt à 50-50 entre le tourisme et le tourisme professionnel.
Mais tout de même, non. Et ça aussi, ça contribue bien sûr au rayonnement international de Toulouse et de sa métropole. Vous évoquiez le collectif Aerospace Valley que vous avez présidé. C'est le premier pôle, ou un des premiers pôles en tout cas, de compétitivité mondiale de la filière aérospatiale. Peut-être dire un mot de son action, vous l'avez déjà largement ébauché, peut-être préciser les choses. C'est beaucoup soutenir des projets coopératifs de R&D et les entreprises du secteur pour favoriser l'innovation.
Absolument. Donc, Aerospace Valley, c'est un pôle qui avait été mis en place au tout début, qui a été labellisé pôle mondial, qui est sur les deux régions et qui regroupe donc tous les acteurs, enfin tous ceux qui adhèrent, des deux régions. Donc, ça représente quand même une communauté déjà extrêmement importante.
Quand on dit deux régions, que les gens comprennent bien, c'est Occitanie
Nouvelle-Aquitaine. Et Occitanie. Donc, déjà, premier rôle d'un pôle de compétitivité, c'est faire en sorte que toute la communauté puisse se retrouver, se parler, construire l'avenir ensemble. Déjà, c'est une mission en soi. Alors, pour ce faire, donc, ils ont comme mission de monter des projets de recherche collaboratifs. C'est-à-dire qu'en fait, quand on adresse une nouvelle technologie, cette nouvelle technologie, elle va adresser à la fois des grosses entreprises, qui vont être souvent un petit peu le prescripteur, des moyennes entreprises, des petites entreprises, des laboratoires de recherche et même des centres de formation. C'est-à-dire que si la grande entreprise met au point des nouvelles technologies extrêmement futuristes, mais que le jour où elle les met en production, personne n'est préparé à les produire ou à les, vous voyez, à apporter des pièces pièces nécessaires pour fabriquer ces nouvelles technologies, eh bien, on perd du temps et ce n'est pas du tout efficace. Donc, c'est ce qu'on appelle le triangle de l'innovation. Hein, c'est un terme qui est maintenant admis par tout le monde. Donc, on construit voilà, l'avenir technologique à partir de ces différentes composantes et Aerospace Valley est vraiment bien organisé pour ça. Alors, ensuite, ils ont aussi comme mission de contribuer à la création de nouvelles entreprises, à alerter un certain nombre d'acteurs pour permettre à ces entreprises de se développer, hein, c'est-à-dire de les coacher en quelque sorte, hein, de leur permettre leur développement, de les mettre en lien avec des clients, etc. Donc ça c'est un peu l'effet réseau aussi. Hein. Ensuite, ils ont toute une activité à l'international. Hein. Il y a un certain nombre de partenaires, notamment au Canada. Hein. Il y a un gros pôle de compétitivité. Moi, j'avais eu l'occasion, quand j'étais présidente, de pouvoir échanger avec ce pôle. Il y a une grosse communauté canadienne. Et là aussi, les entreprises sont intéressées puisqu'on leur ouvre des portes. On leur prépare aussi leur implantation parfois. On avait travaillé aussi dans un grand nombre de pays. Je me rappelle aussi, on avait travaillé avec la Norvège qui avait tout un programme sur l'exploration sous-marine en très profonde. Et nous, on avait le spatial et on voyait qu'il y avait beaucoup de choses finalement, notamment dans la robotique à
des
distance
ouais.
qui pouvaient jouer des deux côtés. Donc, c'était assez intéressant. Donc, effectivement, Aerospace Valley est un outil très intéressant. Moi, je m'appuie beaucoup sur eux, hein, j'avoue, dans mon activité à la métropole parce que d'abord, je les connais bien, je connais leurs talents. Ils connaissent bien tous les acteurs, donc ça gagne énormément de temps. Et notamment, moi, je suis en train d'élaborer un peu une feuille de route qui va nous permettre de bien comprendre où sont nos forces pour préparer l'avion de demain et le spatial de demain. Et je m'appuie sur eux également pour réaliser ce travail.
Alors, rayonnement international, il y a une structure, un équipement dont on doit parler, évidemment, c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui a des lignes qui vont un peu partout dans le monde aussi. Est-ce qu'on sait comment évolue le trafic sur les lignes internationales, qu'elles soient intra ou extra-européennes, à partir ou vers l'aéroport de Toulouse-Blagnac?
Alors, comme vous le savez, le Covid a fait quand même a donné un coup d'arrêt très important. Hein. Le trafic national, actuellement, il est à peu près, ça dépend des mois, hein, mais bon, l'été a été un petit peu meilleur, mais en moyenne, on est à peu près à 50%, quand le trafic international est à peu près à 45%. Donc, ça repart hein, petit à petit. On espère, les projections nous laissent penser qu'on devrait avoir un retour à la normale aux alentours de 2026.
Oui, on n'y est pas encore, effectivement. Et le nombre de compagnies aériennes étrangères qui desservent Toulouse-Blagnac, c'est resté comme c'était avant le Covid ou...
Alors là aussi, hein, on a quand même une certaine baisse. Hein. On avait 30 compagnies aériennes régulières qui desservait l'aéroport sur des lignes internationales. Pour l'année prochaine, en 2022, on estime qu'on en aura à peu près 20, hein, 20-22. Donc on voit qu'on a quand même une baisse importante. Et les destinations étrangères, hein, voilà, c'est pas les compagnies, mais les destinations, il y aurait a priori 54 destinations opérées par des vols réguliers au programme 2022, quand il y en avait 63 en 2019.
Oui, voilà. Juste avant la crise.
Hein, voilà. Et au total, alors ça c'était 63, c'était uniquement pour l'hiver 2019, et 85 au total sur l'année 2019. Donc on voit quand même qu'on a une baisse importante de lignes.
Une chose importante aussi dont il faut que l'on parle, nous avons à Toulouse de grandes écoles d'ingénieurs dans le domaine aéronautique. Je pense bien sûr à Supaéro et à l'ENAC, mais il y en a peut-être d'autres, vous allez nous le dire. Bon, Thomas Pesquet est passé par Supaéro et on forme de grands ingénieurs. Alors que ça aussi, ça doit attirer, je suppose, les entreprises, sachant qu'aussi des anciens étudiants de ces écoles, bah, après, SM aussi un peu partout dans le monde.
Mmh. Ça, c'est un sujet qui m'est particulièrement cher, parce que moi-même, je suis ingénieur. Je suis passé par les classes préparatoires et une école d'ingénieur. Donc, je pense que ce sont des formations de grande qualité qui ont l'avantage de pouvoir. Alors, ça, c'est un peu mon combat personnel, mais qui sont aussi des moyens d'ascenseur social. Hein. Je trouve que les sciences sont un moyen de pouvoir avoir un travail intéressant et quand on n'a pas forcément une famille qui permet de voyager, etc. Après tout, quand on fait des maths, on est à peu près tous à peu près au même niveau. Voilà, ce qui a été mon cas. Donc moi, je suis très sensible au fait que l'on maintienne ce système d'école d'ingénieurs. Et ce qu'il faut savoir, là aussi, moi je discute beaucoup avec des entreprises qui s'implantent ou des entreprises qui se créent à Toulouse. Et la raison pour laquelle elles viennent à Toulouse, la première raison pour laquelle elles viennent à Toulouse, c'est qu'elles y trouvent des bons ingénieurs. Donc, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on se penche. Je pense qu'on s'y est déjà bien penché, hein, je ne découvre rien, mais c'est une vraie richesse. Effectivement, on a des grandes écoles, hein, Super-Héros en fait partie. Et Super-Héros est une école d'application de l'école polytechnique. Donc, on a aussi beaucoup de passionnés issus de l'école polytechnique qui viennent faire leur spécialisation à Super-Héros, qui deviennent après des grands patrons d'industrie, donc qui ont toujours un cœur à Toulouse. Hein, donc, ils reviennent avec grand plaisir et qui nous aident. Hein, j'ai dans mon réseau, j'en ai un certain nombre. Je n'hésite pas à les solliciter et ils répondent toujours présents. Donc, voilà, on a une grande, grande école de Super-Héros. On a l'ENAC, hein, qui est aussi une très grande. On a le réseau des INP, hein, l'ENSET, l'ENSIAT, l'ENSAT, qui sont des écoles aussi de très bon niveau en termes de recherche. Et voilà, donc toute cette communauté, et j'oublie l'INSA, pardon, qui est aussi une très grande. Donc tout ça contribue vraiment, je pense, d'abord à la recherche, puisque ce sont toutes des écoles qui sont très impliquées dans le site universitaire toulousain et dans la recherche. Donc je pense que c'est très, très important. Et on a des laboratoires de recherche qui sont au meilleur niveau mondial, hein, sur lesquels ces écoles sont impliquées. Et on forme voilà, des jeunes qui sont au meilleur niveau ensuite. Donc, très, très important, les écoles d'ingénieurs.
Oui, et puis quand on a un ancien étudiant comme Thomas Pesquet, qui maintenant est connu dans le monde entier, bah, ça aussi, ça contribue beaucoup au rayonnement de notre métropole à travers le monde. Alors, le spatial tout de même, parce qu'on met souvent en avant, avant tout, les entreprises de l'aéronautique à Toulouse, peut-être moins celles du spatial, en tout cas, elles sont moins connues du grand public, alors que Toulouse est vraiment une place forte internationale dans ce secteur. Je vais donner un chiffre, 25% des emplois européens dans le spatial sont à Toulouse. Et ça concerne 12 000 personnes tout de même.
Alors, Toulouse est une capitale du spatial. C'est sans doute la plus grosse concentration d'acteurs du spatial au monde.
Hein, Mais même pas en Europe, au monde.
Ah oui, oui, oui. On a une concentration absolument extraordinaire. On a toute la chaîne, hein, c'est ça aussi qui est intéressant. Hein. Alors, on n'a pas les lanceurs, mais j'ai envie de dire, finalement, c'est pas plus mal, parce que les lanceurs vont sans doute vivre des moments un petit peu compliqués à partir de maintenant, avec la concurrence américaine. Mais on a toute la chaîne de savoir-faire, hein, grand satellite, moyen satellite, petit satellite, les applications, les charges utiles, les gens qui utilisent et qui travaillent sur les données du spatial. Alors, par exemple, une chose, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un centre international qui traite les données issues des satellites sur la mer et l'océan, qui s'appelle Mercator Océan.
Oui, Mercator Océan.
Voilà, alors Mercator Océan est une délégation sur les constellations Copernicus. Hein. Copernicus, ce sont des constellations qui ont été lancées par l'Europe pour l'observation de la Terre et qui recueillent des données sur les océans. Et vous savez combien il est important de comprendre, d'anticiper les problématiques liées au changement climatique provenant de l'océan, l'océan étant un régulateur, hein, donc c'est très très important. Donc en fait, ils reçoivent ces données, ils les travaillent et ensuite ils les mettent à disposition de tous les acteurs, donc dans le domaine de la pêche, de l'analyse des traits de côte, de toute la recherche qui se fait sur la mer. Donc on a vraiment une concentration exceptionnelle. On a les deux gros acteurs mondiaux de fabrication de satellites que sont Airbus et Thales. On a une entreprise aussi peut-être moins connue qui est un spin-off du CNES. Hein, le CNES étant, nous avons le CNES,
le
Centre National d'Études Spatiales, qui est un énorme centre de recherche et d'intégration satellite à Toulouse, qui est une grande fierté. On a donc une entreprise qui s'appelle CLS, hein, qui a été créée à partir du CNES, qui était au départ faite pour la gestion des balises Argos. Donc ça a été, vous savez, les balises Argos que l'on mettait par exemple sur les animaux sauvages pour suivre les migrations, comprendre, etc. Et après, bien évidemment, par extension, ils se sont intéressés à la pêche, hein, ils ont beaucoup de choses, et ils ont développé des nouveaux services absolument époustouflants. Notamment, par exemple, ils travaillent beaucoup dans le domaine de l'urbanisme, et ils sont capables de détecter des mouvement de terrain de quelques millimètres. Donc, quand vous creusez des tunnels, par exemple, c'est important de vérifier, et je peux vous dire que la terre bouge. Donc, c'est important de vérifier qu'effectivement, on ne crée pas de fragilité. Et ils sont capables de faire des choses absolument époustouflantes. Et il y a une autre entreprise, puisque, bien évidemment, tout ce secteur-là bouge énormément, hein, lié à la concurrence internationale. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Kineis, qui va donc lancer une constellation de petits satellites. Tout ça, ça se passe à Toulouse parce que le terreau y est propice. Hein, et ça, moi, je veille à ce que, bien évidemment, on continue. Et il y a de nouveaux champs, hein, je peux vous en parler, hein, de nouveaux champs qui vont nous permettre
alors
de développer tout ça.
Juste pour terminer l'émission, parce que le temps passe, vous parliez du New Space tout à l'heure.
Oui.
Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression et est-ce que c'est très présent à Toulouse ?
C'est très présent à Toulouse, notamment par la fabrication de ce qu'on appelle les nanosats, hein, les nanosatellites. Donc, en gros, il s'agit de faire, si je vous fais une comparaison avec le spatial, il s'agit de faire la Dacia du spatial, quoi. C'est-à-dire que là où on faisait des Rolls avec des satellites, avec des durées de vie extraordinaires, avec des capacités de mission absolument époustouflantes, et ben là, on va faire des satellites avec des composants qu'on achète, entre guillemets, ce qu'on appelle des composants qu'on achète sur étagère. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais il y a des composants qui n'ont pas subi des analyses et des investigations poussées pour vérifier qu'ils vont, ils vont être résistants dans toutes les configurations. Donc, on baisse de façon très importante les coûts, on miniaturise de plus en plus et on est capable, du coup, de pouvoir offrir des missions, hein, avec des satellites qui vont porter des missions beaucoup moins chères. Et on a notamment une start-up qui s'appelle U-Space, là, qui est hébergée au B612. J'ai oublié de vous parler du B612, parce que le B612, c'est le vaisseau amiral de l'aéronautique et du spatial porté par la métropole. Donc, on concentre là des centres de recherche, l'Aerospace Valley, etc., ouais. À Montaudran, voilà. Donc, U-Space est au B612. Voilà, c'est un objet dont on est fier, donc je voilà. Le signale. Donc, le New Space, en fait, ça consiste en gros à rendre le spatial accessible au plus grand nombre. Et quand on va, par exemple, on parle de véhicules connectés, bah quand vous allez sortir des villes, quand vous allez vous trouver en race campagne, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais vous avez plus de réseau, oui, vous, oui. Vous pouvez plus téléphoner, vous pouvez plus écouter oui. Vos émissions, machin. Donc si votre véhicule a besoin d'interférer avec quelque chose d'une manière ou d'une autre, eh ben il va falloir que ça se fasse d'une façon ou d'une autre, et ça se fera forcément avec des satellites. Donc voilà, on est à la veille là aussi d'une révolution dans le domaine du spatial, et on espère bien que cette révolution elle se passera à Toulouse.
Ouais, il y a tout un tissu de PME et de start-up qui s'est créé autour de cette activité. Nouvelles, le New Space. Le moment est venu de conclure cette émission et de vous remercier d'y avoir participé, Agnès Pagneux-Bertrand. Merci de nous avoir présenté tous les acteurs de l'aéronautique et du spatial installés sur notre territoire qui font de Toulouse une métropole qui rayonne à l'international. On a pu voir qu'ils sont nombreux. Donc pour ceux qui s'intéressent au collectif Aerospace Valley qui voudront en savoir plus, je signale qu'il existe un site web pour cela, www.aerospace-valley.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.